Les apôtres ont été arrêtés, battus et puis relâchés. Donc il y a déjà la persécution qui commence. C'est fini les vacances, fini la joie de la communion. Ils étaient heureux à Jérusalem, il y avait des conversions, tout était merveilleux. Puis là, ça commence. Satan attaque et il arrête les apôtres. Il y a des persécutions, des coups. La douleur commence à se faire sentir, l'opprobre de Christ. Et là, verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, encore une fois, tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Effectivement, le Seigneur Jésus avait été crucifié à cause d'une ligue entre Hérode, Pilate, les autorités, Caïphe aussi, tous étaient ligués pour arrêter Jésus-Christ et les chrétiens, tous ensemble. Et maintenant, verset 29, « Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est de la réunion de prière. Et quelqu'un a dit, Dieu a répondu avec un tremblement de terre. Ça veut dire, d'accord. Bon, c'est une région assez touchée par des mouvements sismiques. Mais comme par hasard, c'était pendant qu'ils priaient que Dieu a fait trembler la terre pour dire « Je suis là, vous êtes mes enfants, vous êtes mon église, je vais appuyer votre témoignage, vous aurez l'assurance, vous aurez la puissance. » Mais ils ont eu la persécution qui a continué, ça n'a pas arrêté la persécution. Mais il y a eu des âmes sauvées, il y a eu des miracles qui ont été faits, qui ont touché beaucoup de juifs et de païens ensuite. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi une réunion de prière. Pas une réunion de prière, mais des prières qui nous touchent. Je mentionnerai en passant, parce que je n'ai pas le temps de m'arrêter dessus, celle de Daniel, Daniel 9. Extraordinaire prière de ce prophète qui est seul, un petit peu en captivité à Babylone. Il souffre de voir son peuple en captivité, d'être sans liberté, d'être opprimé par les Babyloniens, qui étaient un peuple assez cruel. Et au chapitre 9, verset 6, il prie. Une extraordinaire prière. Nous n'avons pas écouté. Voilà, il confesse. Verset 4. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été rebelles, etc. Et c'est pour ça que nous sommes en captivité. À toi, Seigneur, verset 7, la justice. À nous, la confusion. Verset 9, « Auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » Verset 12, « Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Il a fait venir sur nous une grande calamité. » Je pense en ce moment au peuple juif en Israël. Tous les jours presque, ils sont attaqués par quelqu'un. Il y a des Palestiniens radicalisés, fanatiques, qui essaient de tuer des juifs avec un couteau. Ils ont tué encore un touriste américain. Je crois que c'était hier. Et nous, on a eu le Bataclan, il y a eu quasiment 130 morts, mais eux, c'est tous les jours qu'il y a des attaques comme ça. N'importe qui peut foncer sur vous en voiture, vous attaquer au couteau, comme ça, en pleine rue. Et ils vivent sous cette terreur permanente. Il y a l'Iran qui veut leur envoyer des missiles. Et je prie pour Israël pour qu'ils aient la même attitude que Daniel. Qui ne disent pas simplement « Nous sommes des pauvres victimes », parce qu'ils sont victimes de cette haine, cet antisémitisme palestinien et arabe en général, et islamique aussi, mais qu'ils se repentent aussi, qu'ils disent « Seigneur, nous avons péché, nous avons besoin de revenir à toi ». Une grande majorité de la population israélienne est athée, agnostique. Il y a très peu de croyants en Israël. Ils sont très matérialistes. Ils aiment la plage, ils aiment le soleil d'Israël, ils aiment ils sont très matérialistes et ils ont perdu de vue le Seigneur. Et là, Daniel, il a cette humilité. Lui qui avait été fidèle, justement. S'il y en a un qui avait été fidèle, c'était Daniel. Et pourtant, il dit, nous avons péché. Et ce qui est beau, c'est les versets 17 et suivants. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire, ton temple dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Et là, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étonnant? C'est Daniel qui prie, pourtant il dit « nous ». Alors, est-ce qu'il était avec d'autres juifs pour prier? C'est une possibilité, qu'il y avait une réunion de prière des juifs là. Mais c'est aussi une façon de se mettre avec son peuple en entier, de dire, nous te présentons nos supplications à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Et verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel s'approcha de moi. Dieu répond à son cri en envoyant l'ange Gabriel qui va lui annoncer un certain nombre de choses qui vont se passer, de prophéties qui vont arriver s'accomplir. Quand il y a la prière intense, vous avez vu l'intensité dans sa prière? Seigneur, écoute, il plaide, il intercède, il n'est pas détaché, il n'est pas en disant « Ah, Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose !» Il met toute son âme, tout son cœur, il met sa propre vie là, dans cette prière. Et j'aimerais ce soir m'attarder sur un autre homme de Dieu qui s'appelle Néhémie, qui lui aussi a prié une prière d'intercession pour son peuple, une prière modèle on pourrait dire, même si quand lui il a prié c'était pas pour être un modèle. Mais elle est pour nous un modèle, dans le livre de Néhémie. Et ce qui est intéressant, c'est que on verra un peu plus tard des exemples de prières dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, qui ont amené à des réveils. Et ce n'est pas toujours des prophètes, des pasteurs, des missionnaires. Vous avez des chrétiens qui n'avaient pas un ministère en vue particulièrement, mais qui se sont mis à prier. Mais à prier avec les deux choses de la réunion de prière, là, d'acte, c'est quoi? Persistance et d'un commun accord. Quand il y a ces deux choses, ça bouge au ciel et sur la terre. Donc Néhémie, c'est ce juif qui a été emmené en captivité. Il se trouve à Suse, dans la capitale de l'Assyrie. Et là, il est échanson du roi, c'est-à-dire qu'il sert le vin, mais il doit aussi, c'est une grande responsabilité l'échanson, parce qu'il doit goûter pour qu'il n'y ait pas d'empoisonnement. Il est toujours près du roi, il a l'oreille du roi, donc il est souvent approché par des gens qui viennent lui dire « Néhémie, tu ne pourrais pas faire passer ce papier au roi, il faut qu'il pousse mon cousin, parce que mon cousin il aimerait être intendant là-bas, tu ne pourrais pas lui dire un mot de ma part ?» Donc il avait un rôle de conseiller, sans en avoir l'air, puisque son but c'était quand même de choisir le vin et de le verser sur la table. Mais en tant qu'hébreu, en captivité, il souffrait énormément. Versets 2 à 4, « Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » La première chose que l'on remarque chez Néhémie, c'est son fardeau pour son peuple et pour sa ville. Il était bien installé à Suse, lui. Auprès du roi, il avait le droit à toute la nourriture royale. Il pouvait goûter les bons vins. Il était en sécurité. Il était sous la protection du roi lui-même. Je veux dire, personne ne pouvait toucher un cheveu de sa tête. On ne peut pas être plus protégé que être échanson du roi, sauf si on fait, bien sûr, une erreur. Mais il était à l'abri, il était dans le confort, il aurait pu se dire, « Ah oh, bon, ben voilà, ouais, là-bas, à Jérusalem, bon, c'est la cata, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis coincé là, je prie pour vous, je pense à vous vraiment, les frères, allez-y, battez-vous. Hein. » Mais Néhémie n'était pas de cette trempe-là. Il souffrait comme s'il était lui-même là-bas à Jérusalem. Il avait un fardeau terrible et chaque fois qu'il y a un juif qui revenait, il interrogeait, « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Où en est la situation ?» Il voulait tout savoir. Et nous, est-ce que nous avons un fardeau pour notre ville, pour notre famille, pour notre pays? Est-ce que nous avons ce même fardeau de voir la situation, de dire « mais la situation est catastrophique, on ne peut pas rester comme ça. Même si moi, ça va bien dans ma vie, merci Seigneur, ça va bien, mais je ne peux pas être bien parce que je vois les âmes perdues, parce que je vois l'état des églises ou de l'église ou de ma vie. » Alors il commence à prier avec ce fardeau sur son cœur. Il s'adresse au Seigneur, remarquez, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. » Et la semaine prochaine, ce sera un message encore plus important à mes yeux, ce sera dans le réveil de retrouver la présence de Dieu, une nouvelle vision de Dieu. Et je pense que nous en avons besoin. Quand vous lisez ces prières, vous avez cette foi, il est directement dans la présence de Dieu. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, il rappelle qui est Dieu. » Dit « Seigneur, qui es-tu ? Tu es le Dieu des cieux, tu es le Dieu grand, le Dieu redoutable. Tu gardes ton alliance, tu es le Dieu qui fait des promesses et qui les tient. Je peux compter sur toi, je peux croire en toi. Tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et ceux qui observent tes commandements. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Il jeûnait, il veillait, pas pour être plus spirituel, pas pour parce qu'il s'est dit « si je fais ça, peut-être ça va... » Non, il faisait ça parce qu'il avait un tel fardeau qu'il ne pouvait pas s'arrêter de prier, de pleurer pour son peuple. Verset 6 toujours. « Je t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » C'est toujours le début du réveil, la conviction de péché. Et là, il s'identifie à son peuple. Encore une fois, Néhémie n'est pas le plus grand pécheur dans l'histoire. Ce n'est pas lui et sa famille qui ont été les pires dans l'histoire d'Israël. Au contraire, il va être un héros de la foi, Néhémie. Mais il dit quand même, nous avons péché. Il est convaincu de péché par le Saint-Esprit. Et c'est après Dieu, c'est la deuxième chose qu'il voit. Il voit Dieu et ensuite il voit... Nous sommes pécheurs. Nous ne vivons pas comme il faut. C'est pour ça qu'il nous arrive tous ces problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas en Israël. Nous sommes le peuple élu, mais en fait, nous avons raté notre vocation. Nous n'avons pas obéi à ta loi. Il s'identifie. Et c'est important de s'identifier avec les frères et sœurs, de ne pas penser qu'on est plus spirituel, ne pas se mettre au-dessus en disant « Ah, s'il n'y a pas de réveil, c'est parce que tel ou tel... » Non, je me regarde moi d'abord. Où est-ce que j'en suis moi? Et pourquoi la France est si dure? Mais peut-être parce que les chrétiens n'ont pas prié suffisamment. Et si les choses bougent en ce moment un petit peu en France... Hein, je pense que c'est le fruit et le résultat de prières. Il y a des gens dans le monde entier qui visitent Paris, et il y a des chrétiens du monde entier qui visitent Paris et qui, quand ils reviennent chez eux, ils prient pour la France. Parce qu'ils sont touchés. Ils voient cette tristesse. Ils entendent parler de ces suicides dans le métro. Quand vous êtes touriste, vous avez la ligne qui est bloquée. On vous dit accident voyageur. Vous demandez, mais c'est quoi accident voyageur? Suicide. Vous dites, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Cette belle ville, c'est la joie de vivre, les Français, la France, le vin, les bons repas. Eh bien non, c'est pas la joie de vivre. Il y a un truc qui va pas en France. Et il y a des gens qui prient grâce à Dieu. Et les choses commencent à bouger. Il y a eu un réveil à Paris. Sous Catherine Booth, la fille du général William Booth, le fondateur de l'armée du salut, c'était en 1881. Ça fait une paye quand même. Qu'il y a eu ce réveil, un réveil parmi les ouvriers de Paris. Des centaines de personnes sont venues au Seigneur. À travers le travail de cette femme en plus. Hein. Une évangéliste de l'armée du salut. Une femme de prière, une femme de conviction qui prêchait l'évangile à ces clochards qui venaient, qui étaient pas seulement des clochards, il y avait vraiment des gens, des criminels, hein, des gens très noirs, très sombres, et ils ont trouvé le salut en Jésus-Christ. Pourquoi pas recommencer maintenant? La troisième chose qu'il fait, après s'être identifié, il confesse, hein, ses péchés, nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements. Il dit précisément le péché d'Israël. Nous n'avons pas observé tes lois, tes commandements. Nous n'avons pas obéi, tout simplement. L'obéissance. Et dans les réveils, il y a toujours ce commencement par reconnaître là où on n'a pas obéi. Bien sûr, il y a plein de choses où on a obéi, mais il y a des choses importantes qu'on a négligées. Et c'est là où le Saint-Esprit veut nous amener à donner toute notre vie. Et puis, verset 8, il passe à une autre étape dans la prière, il dit « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Il rappelle la promesse de Dieu. « Seigneur, tu as dit que si on désobéissait, on serait emmené en captivité. » Et la parole s'est accomplie parce que tu es fidèle, Seigneur. « Mais tu as dit que si on revenait à toi, si on se repentait, alors tu nous ramènerais. » Mais c'était une prière extraordinaire parce que l'empire assyrien, et Daniel, c'est l'empire babylonien, c'est des empires. Suse, c'était l'empire perse, pardon. Je me suis trompé au début, j'ai dit assyrien, mais c'est la Perse. Ces empires étaient les empires principaux du monde. Il n'y avait pas plus puissant que Babylone, pas plus puissant que la Perse. Comment ce petit peuple de Juifs, battu, écrasé, dont la ville était détruite, les murailles étaient. Quand les murailles étaient détruites, c'était fini. C'était bon pour les chacals, hein, et les hiboux. Comment ce petit peuple allait revenir dans son pays et redevenir Israël? Pas possible. Pas possible, sauf si on prie. Ce qui s'est passé en 1948 est extraordinaire dans ce sens. Israël qui avait perdu son pays, qui avait perdu sa langue, l'hébreu était une langue morte, qui a été massacré par les nazis, 6 millions de juifs exterminés. C'est-à-dire il ne restait plus grand monde. Hein. Et pourtant Dieu les a ramenés en Israël, selon la prophétie d'Ézéchiel, hein, qu'il ramènerait, il redonnerait vie à ces eaux desséchées. C'est ça la main de Dieu. Et il peut faire ce qu'il a fait pour Israël, il peut le faire pour les Français, pour la France, pour notre pays. À nous de saisir les promesses de Dieu. Seigneur, tu veux que tous les hommes parviennent à la vérité. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit qui convaincrait le monde en ce qui concerne le péché. Seigneur, fais-le parce que tu l'as dit. Pas parce que moi je suis merveilleux, mais à cause de tes grandes compassions, de ton amour pour ce monde. Néhémie cite cette vieille promesse de Moïse, c'était pour lui, c'était très ancien déjà, mais elle est toujours valable, la Bible est toujours valable. Et un seul homme qui se repent, ça peut bouger les choses. Au chapitre 2, les choses n'ont pas tardé à bouger. Le roi était là, et à table, et Néhémie lui sert du vin, Et Néhémie était triste. Et le roi lui dit, Néhémie, tu m'as l'air bien triste. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as un chagrin d'amour? Et Néhémie dit, non, c'est mon peuple qui est désolé, ma ville qui est détruite. Et le roi, contre toute attente, lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi et je te donnerai ce que tu veux. Incroyable, le roi de Perse, le plus grand roi de l'époque, lui dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors il dit, ben, donne-moi des lettres de recommandation et je vais aller visiter Jérusalem et j'aimerais reconstruire les murailles. Et en 52 jours, il a fait rebâtir les murailles. C'est un projet, à cette époque-là, pharaonique, de rebâtir les murailles de Jérusalem. Il a réussi à réunir tous les Juifs découragés, déprimés, abattus, de les ramener là. Il a dit, chacun dans sa maison, prenez la truelle et on y va. On reconstruit la muraille devant sa maison. Et chacun a travaillé devant sa maison. Il a réussi à les motiver. Il y a des ennemis qui sont arrivés pour se moquer d'eux, ensuite pour les attaquer. Ils ont tenu ferme. En 52 jours, c'était plié, ou c'était plutôt construit. La muraille était en place. Et après, on pouvait rebâtir le sanctuaire, le temple. Et ça, c'est Esdras qui va jouer un rôle avec Néhémie. Dieu a réveillé son peuple. Parce qu'un homme à pleurer, à jeûner, à prier, en disant, c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible. Ton nom n'est pas glorieux là dans cette histoire. Tu as promis. Alors j'aimerais vous donner maintenant quelques exemples de réveils qui sont venus suite à des prières. Beaucoup d'histoires racontées des réveils par des témoins oculaires. Viennent surtout des 17e, 18e, 19e siècles, parce que d'abord, il y avait plus de. C'était plus proche de nous, il y a plus de témoignages qui sont venus, il y avait l'imprimerie qui a permis d'écrire des livres sur les réveils. Avant le 16e, il n'y avait pas l'imprimerie. Avant le 16e, il y avait l'Église de Rome qui dominait tout, notamment à travers les moines et les prêtres. Donc, quand vous vouliez écrire quelque chose, c'était très compliqué. Pour le faire sortir. Et donc, beaucoup de témoignages de réveil commencent 17e, 18e, etc. Pas tous, mais beaucoup. Et j'aimerais commencer, j'ai choisi quelques exemples tirés de ces livres, mais il y a d'autres livres que j'ai utilisés. Ce livre est écrit par un pasteur anglais actuel, Brian Edwards, Revival, donc le réveil. Un peuple saturé par Dieu ou avec Dieu. Et donc, il donne un certain nombre d'exemples très touchants. David Brainerd, 1739. Donc, c'est vieux, hein? Il y a eu deux grands réveils aux États-Unis, le premier et le second, hein, on les a appelés comme ça, et qui ont secoué l'Est des États-Unis vraiment d'une façon extraordinaire. Il y a eu des milliers de gens pendant des années. C'est un réveil qui a duré des années, où les âmes étaient sauvées continuellement, les chrétiens étaient touchés. Et à la suite de ce réveil, il y a un jeune homme qui s'appelle David Brainerd qui a été touché pour aller voir les Indiens. Jusque-là, les protestants anglais qui étaient en Amérique étaient racistes. C'est-à-dire, pour eux, les Indiens, c'était des sauvages. Donc, il n'était pas question d'aller leur parler. Ils sont des païens horribles. Regarde leur peinture, ils sont bizarres. Surtout qu'ils restent loin de nous. Et le réveil a amené l'amour pour toutes les âmes, peu importe leur couleur, leur religion. Et David Brainerd, il a eu un fardeau pour les Indiens. Il a été tout seul voir les Indiens. Il a été voir plusieurs tribus dans plusieurs États et il a fait un travail admirable tout seul. Il est mort d'ailleurs aux alentours de 30 ans d'une pneumonie parce qu'il était dans le froid pendant des mois et des mois. Tuberculose? Ah oui, pardon. Tuberculose, oui, effectivement. Oui, c'est Félix Neff, je crois, qu'il y avait quelque chose un peu comme une pneumonie. Ou, oui. Ulcère l'estomac, bon, d'accord. Sur les détails des morts, Jean-Alain connaît mieux que moi. Et donc David Brainerd s'est épuisé, on peut dire, pour les âmes perdues. Il a refusé de se marier. Il pouvait se marier avec la fille d'un des grands hommes de réveil. Mais il a dit, écoute, là pour l'instant, moi, c'est la mission. Faut que j'aille toucher ces Indiens. Et ces Indiens ne connaissaient rien à rien. Et d'abord, il a dû essayer de leur parler, d'apprendre la langue. Et eux, il y en avait certains qui avaient un peu appris l'anglais en contact avec des Anglais. Et il a travaillé surtout un moment avec un traducteur alcoolique qui était un membre d'une tribu et qui buvait sans arrêt de l'alcool. Et donc, pour traduire ces messages, c'était compliqué parce que l'homme était vraiment ivre. Et il ne savait pas ce qu'il disait à la tribu, il n'avait aucune idée. J'espère qu'il dit au moins deux ou trois mots corrects, parce que là, il a l'air vraiment saoul. Mais il n'avait que cet homme qui pouvait parler anglais, et lui, il priait. Il raconte dans son journal, il dit, je suppliais Dieu, j'attendais avec vraiment beaucoup d'attente que Dieu glorifie son nom parmi ses peuples païens. Je n'avais aucun goût pour la joie de ce monde. Ça ne m'intéressait pas où et comment je vivais, quelle épreuve j'allais rencontrer. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de gagner des âmes pour Christ. Et j'ai continué dans cet état d'esprit, jour et nuit, dans la prière. Quand je dormais, je rêvais du salut de ces Indiens. Quand je me réveillais, la première chose à laquelle je pensais, c'était ce grand œuvre de plaider Dieu contre Satan qui voulait les tenir dans les ténèbres. Après des mois, des années sans résultat, c'est ça la chose, rien. Le 2 juillet 1745, Brainerd retourne visiter une des tribus qu'il avait évangélisées auparavant dans le Delaware. Il quitte la tribu de Crosswicksung, et il va à Delaware, et là il prêche. Le 21 juillet, il y a des Indiens qui s'avancent pour être sauvés, pour croire. Il baptise ses deux premiers convertis ce jour-là. L'interprète, ivre, mort en d'habitude, et sa femme. Cet homme ne buvait plus une goutte d'alcool, et il s'est tourné vers le Seigneur, et avec sa femme, ils ont été les premiers convertis dans cette tribu. Il a vu ensuite les autres, sérieux, pensifs, inquiets pour leur âme. Le 3 août, donc un mois plus tard, il revient dans l'autre tribu, il voit le changement dans le cœur de ces Indiens. Ils ne veulent plus manger quoi que ce soit sans avoir rendu grâce à Dieu. Il lui demande comment faire pour être sauvé. Le 5 août, il y a une femme qui se convertit, qui trouve la paix du cœur. Le lendemain, c'est deux autres personnes qui se convertissent. Le surlendemain, ils sont trois. Le 8 août, c'est 65 qui viennent écouter la prédication de l'Évangile. Hommes et femmes, des plus jeunes aux plus âgés. Il y a des anciens ivrognes qui sont inquiets pour leur âme. Tous pleurent ensemble. Ils prient en même temps pour obtenir grâce. C'est le début d'un réveil. Le lendemain, Brainerd passe la journée à échanger autant que possible avec chacun d'eux, et plus particulièrement avec ceux qui ont fait profession de se convertir. Il cherche à les instruire et à les guider. Il a prié des mois, il a travaillé, rien, rien. Et puis un jour, c'est venu. Mais il n'a pas lâché prise. Comme disent les jeunes aujourd'hui, on lâche rien. Il n'a pas lâché. 1792, un peu plus tard, William Bramwell, en Angleterre, dans le centre de l'Angleterre, près de Leeds. Il raconte, « Alors que je priais dans ma chambre, j'ai reçu une réponse de Dieu d'une façon très particulière. Dieu m'a montré qu'il allait envoyer un réveil, et quels seraient les effets de ce réveil dans les églises. Je n'avais plus aucun doute, toute ma peine dans la prière était partie, je pouvais dire, le Seigneur va venir, je sais qu'il va venir, et soudainement. » Et le Seigneur est venu. Il a envoyé un réveil phénoménal dans cette région. C'est Bramwell qui était un homme particulièrement engagé dans la prière et l'intercession qui écrit lui-même « Prie, mon frère, oh, prie. Ne cesse jamais de demander la plénitude de Dieu. » Parce que le temps va bientôt se terminer, et si tu n'as pas cette plénitude, elle sera perdue pour toujours. Je suis étonné qu'on ne prie pas plus, oui, qu'on ne vive pas plus chaque moment, comme si on était au bord de l'éternité, et dans l'attente glorieuse du pays qui nous est réservé. Cet homme, il vivait dans le ciel, quoi, mais les pieds sur terre, et il priait. Il dit, mais pourquoi on ne prie pas plus? Qu'est-ce qui se passe? Un exemple qui est touchant aussi, c'est à New York City, une grande ville comme Paris, mais c'était en 1857. Et il y avait une vieille église hollandaise qui était moribonde, là, il ne se passait plus grand-chose. Et ils ont fait appel à quelqu'un, ils ont dit, on a besoin de quelqu'un pour réveiller l'église. Et ils ont fait appel à un ancien homme d'affaires qui s'appelait Jérémia Lanfieur. Donc ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un missionnaire, c'était un ancien homme d'affaires, mais qui priait. Et on lui a dit, Jérémia, il faut que tu réveilles l'église, il faut que tu fasses quelque chose. Bon, alors il a dit d'accord. Il a eu une idée, c'est de commencer une réunion de prière à New York City parmi les hommes d'affaires. Donc il a dit, le mercredi entre midi et 1h, tous ceux qui veulent, vous venez, il a mis des petites affiches dans le quartier, des affaires, vous venez prier. On va prier 1 heure, on va intercéder pour notre pays, pour les âmes. Bon. Et dans l'église, là, Fulton Street, c'est devenu le réveil de Fulton Street. Donc la première réunion, il attend, midi, midi et demi, c'est dur les premières réunions toujours. Et puis finalement, il y a 1, 2, 3 personnes qui viennent et il y a 6 hommes d'affaires du quartier qui viennent prier. Bon, c'est toujours ça. Le mercredi suivant, il a 20 hommes. Il dit, ah, c'est bien. Le troisième mercredi, ils sont 40. Il dit, 40 hommes qui prient, c'est beaucoup 40. Là, on est, je ne pense pas qu'on soit 40 là, ce soir. Ou non. 40 hommes d'affaires, ils prient. Alors, ils se réunissent, ils prient ensemble et à la fin, ils disent, il faut faire plus. Oui, je suis d'accord. Oui, moi aussi. On va faire la réunion de prière tous les jours, entre midi et 1h. D'accord, tous les jours, sauf le dimanche où on va à l'église. On ne travaille pas. Et donc, ils ont commencé cette réunion de prière tous les jours. Au bout, quasiment 1 an, il y avait, tenez-vous bien, 10 000 personnes, 10 000 hommes qui priaient chaque jour à New York. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'il y a eu cette réunion de prière qui a été comme un feu de prairie. Hein. Pfiou ! Le Saint-Esprit a utilisé cette réunion de prière pour toucher les hommes, mais il y a eu aussi un crack, hein, ou un crash bancaire en 1857. Là, les gens ont perdu beaucoup d'argent, les banquiers ont perdu, les entreprises se sont effondrées, ils se sont retrouvés au chômage, et là, au lieu de crier contre Dieu, ils sont venus prier. Et c'est comme ça qu'ils sont retrouvés à 10 000. 10 000 hommes qui prient, ça fait du grabuge. Et les historiens de l'histoire de l'Église estiment que suite à ce réveil de Fulton Street, il y a eu environ 1 million d'âmes sauvées dans tout New York, hein, dans toute l'État et la région autour de New York. 1 million de personnes à travers des hommes qui prient. Un autre exemple au Japon. Le Japon, on n'en parle pas souvent, mais il y a peu de chrétiens au Japon. C'est un pays assez difficile. 1883, les églises qui étaient là, présentes, il n'y avait pas beaucoup d'églises, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les églises, c'était des Anglais principalement qui étaient missionnaires, on dit on va faire 1 semaine de prière pour le réveil. Donc pendant 1 semaine, tous les jours, ils ont prié pour le réveil au Japon. Et Dieu a exaucé quasiment dans la foulée. Il y a des gens qui ont commencé à venir au Seigneur dans leurs églises. Ils sont passés de 5 000 chrétiens à 30 000 chrétiens en 7 ans. Voilà. C'est pas énorme vu certains pays, mais pour le Japon, c'est énorme. Surtout à cette époque-là. Dieu a répondu à des réunions de prière. 1859, Charles Haddon Spurgeon, le fameux prince des prédicateurs à Londres, il a 19 ans quand il est invité par une église. New Park Street Chapel. 19 ans, c'est jeune quand même, hein? Ils venaient de faire l'Institut biblique. Ils ont dit, on te prend à l'essai, on a besoin d'un pasteur, on ne trouve personne, on espère que ça ira. Et puis, tout de suite, ça a été des choses qui sont passées, les âmes sauvées, tout de suite. Et il y a eu un réveil permanent pendant des années dans cette église. Cette église qui a commencé, il dit, hein, c'est Spurgeon lui-même, il dit, quand je suis arrivé à New Park Street Chapel, il n'y avait qu'une petite poignée de gens qui étaient là, qui se réunissaient. Mais, je n'oublierai jamais la sincérité dans leurs prières. Parfois, ils plaidaient avec tellement de vigueur dans la prière que c'est comme s'ils pouvaient voir l'ange de l'Alliance. Alors, c'est une expression un peu hein, comme dans l'Ancien Testament, hein, où l'ange de l'Éternel se manifestait, c'est le Messie, hein, c'est le Fils. Et c'est comme s'ils pouvaient voir Dieu lui-même, Christ lui-même, présent devant eux, comme s'ils allaient lui demander directement à lui la bénédiction. Plus d'une fois, nous étions tous tellement frappés par la solennité de la réunion de prière que nous restions assis silencieusement pendant long moment, pendant que la puissance du Seigneur nous couvrait de son ombre. Et tout ce que je pouvais faire à la fin d'une telle réunion, c'est dire juste une bénédiction. Cette église qui a eu une poignée au début, elle est arrivée jusqu'à 10 000 personnes. 10 000 personnes au culte. Voilà. 1908 en Chine, Jonathan Goforth. Ce sont des noms connus pour les Américains et pour ceux qui connaissent l'histoire des réveils. Mais pour vous, peut-être, vous ne connaissez pas, mais ce sont des noms inconnus. Jonathan Goforth en Chine, tournant du XXe siècle. Il devait diriger une réunion de prière pour les chrétiens chinois. Et le Saint-Esprit le touchait sur un point. Il lui disait, « Va et règle les choses afin que je sois avec toi demain dans la réunion de prière. » Et régler les choses, il dit, « J'avais un problème, un conflit avec un autre missionnaire, parce qu'il était missionnaire, et je ne voulais pas régler ce conflit. Je pensais que j'avais raison et que c'était à lui et je voulais rien faire. Et le Saint-Esprit mettait le doigt dessus. Je voulais pas céder. Alors j'ai commencé la réunion de prière comme sans rien régler. Tout allait bien. On chantait le premier cantique et pendant la lecture de l'écriture, j'ai voulu ouvrir mes lèvres pour prier, faire la première prière et je suis devenu totalement confus parce que le Saint-Esprit me convainquait, hypocrite, pourquoi tu n'as pas réglé cette chose ? Je suis devenu de plus en plus troublé. Finalement, au milieu de ma prière, c'était tellement intolérable que j'ai cédé au Seigneur. Seigneur, j'ai promis dans mon cœur, dès que cette réunion est terminée, je vais mettre les choses en règle avec ce frère. Il dit, quand j'ai dit ça dans mon cœur, personne ne l'a su, hein, il n'y a que lui qui le savait, tout ce qui se passait là. Dès que j'ai dit ça au Saint-Esprit, c'est comme si quelque chose s'était débloqué dans la réunion de prière. Les Chinois chrétiens n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans mon cœur. Mais à ce moment-là, l'atmosphère a changé. Et il y a eu une ouverture pour la prière. Un après l'autre, ils se sont levés pour prier, mais pour s'asseoir aussitôt en pleurant, convaincus de péché. Pendant 20 ans, nous avions travaillé parmi ce peuple. Et c'était la première fois qu'on voyait cette repentance manifestée, hein, dans une réunion de prière. Un peu la même année, en Corée du Nord. Alors ça, c'est étonnant, parce que la Corée du Nord, quand on la connaît aujourd'hui, on n'imagine pas qu'il y a pu avoir un réveil. Mais il y a eu des réveils en Corée. Et c'était notamment à Pyongyang, hein, la capitale de la Corée du Nord. Là, il y avait des missionnaires. Et ces missionnaires disaient, il faut qu'on prie, parce que vous, les Coréens, vous ne voulez pas vous repentir de votre haine envers les Japonais. Alors les Japonais ont fait beaucoup de dégâts, hein, en Asie, en Chine notamment et en Corée. Ils ont conquis beaucoup de pays et ils ont été extrêmement cruels. Et donc il y avait cette amertume encore chez les Chinois, hein, envers les Japonais et chez les Coréens aussi. Ils ont dit, nous sommes chrétiens, on ne doit pas avoir de haine envers les Japonais, on doit confesser ce péché au Seigneur. Et il ressentait, ces missionnaires, que ces chrétiens coréens n'étaient pas vraiment, c'était pas bien repentis de leurs péchés. Ils toléraient beaucoup de péchés dans leur vie. Alors, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et en fait, c'est en janvier 1907 qu'il y a une classe d'étudiants qui s'est mise à prier pour le réveil et pour leur réveil. Et donc, il y a un pasteur coréen qui s'appelle Révérend G. Lee. Bon, beaucoup de Coréens s'appellent Lee. Décrit ce qui s'est passé pendant cette réunion de prière de ses étudiants. Après la prière, les étudiants ont commencé à confesser leurs péchés et l'Esprit de Dieu est descendu sur l'auditoire. Un après l'autre se levait pour avouer ses péchés au Seigneur. Ils s'asseyaient aussitôt en pleurant. Ensuite, certains se mettaient à genoux par terre et tapaient le sol avec leurs poings dans une agonie de conviction de péché. C'est comme si la présence de Dieu était là, le Dieu saint, et que tout le monde était là, réalisant leur péché. Il dit cette réunion de prière d'étudiants a eu un impact sur leur réunion de prière, eux, à la capitale, les missionnaires. Et il dit, le Saint-Esprit a convaincu de péché toute l'assemblée et un esprit vraiment de conviction est tombé sur nous et nous avons commencé à pleurer aussi, à confesser nos péchés et à trouver la paix dans le Seigneur. Un dernier exemple, à Bornéo, une île du sud-est asiatique. C'est pour vous dire que c'est partout. Il n'y a pas des pays particuliers. Du moment qu'il y a des chrétiens quelque part, il peut y avoir un réveil, des gens qui prient. En 1973, donc c'est plus proche, un peu plus proche de nous, c'est un groupe là d'un lycée dans un village qui s'appelait Barrio à Bornéo. Et ils se réunissaient tous les soirs pour prier après l'école, après le lycée. Donc c'était des jeunes chrétiens. Au lieu de jouer au foot ou je ne sais pas quoi, ils ont dit après l'école, on va prier ensemble. Déjà, il y a quelque chose là. Et ils ont dit, Seigneur, le réveil que tu as envoyé en Indonésie, parce qu'il y avait eu un réveil en Indonésie, nous voulons que tu l'envoies à Bornéo. Ils ont demandé une chose audacieuse quand même à Dieu. Alors les professeurs étaient un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là, cette réunion de prière? Mais c'est quoi? Ils étaient un peu méfiants. Et les étudiants ont passé toute une nuit à prier. Et l'Esprit de Dieu a commencé à convaincre de péché les professeurs eux-mêmes. Au point qu'ils sont venus à la réunion de prière, ils ont commencé à crier à Dieu. Et puis la réponse est venue, le réveil est arrivé dans ce groupe, et puis qui a touché ensuite des églises qui étaient là. Et ils disent, c'est devenu tellement important ce réveil à Bornéo, que le gouvernement a fait un compte rendu, a dû faire des comptes rendus du réveil dans leur pays. Alors qu'en général, les gouvernements, ils n'aiment pas trop parler de ces choses-là. Tout ça pour dire quoi? C'est que la prière de foi, la prière du juste a une grande efficace, dit la Bible. Et si on ne demande rien, on n'a rien. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, dit le Seigneur. Si nous ne demandons pas la plénitude de Dieu, si nous ne demandons pas le salut des âmes, il n'y aura rien qui va se passer. On pourra toujours dire, ah, c'est la souveraineté de Dieu, mais la souveraineté de Dieu veut agir. La preuve, tous ces exemples. Et on n'a pas besoin d'être pasteur, missionnaire pour prier. Justement, n'importe qui a la foi, qui a la plénitude du Seigneur, qui met sa vie en règle, peut demander à Dieu de grandes choses. Et là, vous avez remarqué, il demande le réveil, il demande des grandes choses. Nous nous cantonnons trop à des petites choses. Seigneur, bénis-moi, je vais voir le médecin. C'est sûr, ça touche notre vie d'aller voir le médecin. Mais le réveil, c'est au-dessus, il y a quelque chose d'au-dessus là. C'est spirituel, ça dépasse. Ces hommes et ces femmes, quand le Saint-Esprit vient dans leur vie, ils passent à autre chose, à un autre niveau de leur vie spirituelle. Ils vivent vraiment dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous et pour notre Église, pour notre pays, notre ville. Alors que faire? Il me semble que ce serait bien si nous l'avons à cœur, parce que si ces messages sont donnés, si Dieu me les a mis à cœur, ce n'est pas pour qu'on se gargarise en disant « Alléluia, Amen » et « à la prochaine fois ». C'est pour qu'on agisse et il me semble qu'il serait bon que tous ceux qui veulent, bien sûr, qui l'ont à cœur, qui ont un fardeau, viennent le dimanche matin, avant le culte, pour prier. Voilà. Moi, je ne peux pas toujours, parce que je donne un cours de baptême, notamment. Je ne suis pas toujours disponible, mais Jean-Alain, quand il est là, il vient plus tôt. Il est là plus tôt. Et il serait heureux, je suis sûr, de prier avec vous. Et déjà, vous priez. Il y en a déjà qui le font, hein, depuis qu'il n'y a pas les cours. Enfin, mais continuons et augmentons cette prière pour demander de grandes choses au Seigneur. Il y a tant d'âmes perdues et tant de besoins en France. Et que le Seigneur soit avec nous. On va chanter une dernière strophe de « Ô Jésus, je me repose ». Et après, la réunion sera terminée. Je pense qu'il y a une petite répétition aussi.